Nous continuons notre série sur la Genèse, c'est-à-dire le commencement de l'histoire de l'homme et de sa relation avec Dieu. Et on a déjà vu ensemble que nous avons été créés à l'image de Dieu et que tout était très bon dans la création, Genèse 1 et 2. Et on a appris aussi que nous avons péché avec Adam et Ève, en voulant être Dieu à la place de Dieu, ce qui a amené une rupture de la relation avec Dieu. Et puis on a appris que le mal avait envahi tous les domaines de notre vie à vitesse grand V, une propagation énorme, si bien que Dieu a presque regretté de nous avoir créés. Mais dans son amour et sa grâce, il se manifeste à travers l'histoire de Noé et de sa famille, sauvés du déluge, figure du jugement, qui entre par la foi dans l'arche de l'Alliance. Cette alliance qui est marquée par ce signe magnifique de l'arc-en-ciel, qui fait le lien entre la terre et le ciel. Et nous en arrivons à cette fameuse histoire de Babel dans Genèse 11, avec ce titre marqué sur vos mementos et un peu partout. Quelle drôle d'histoire. Quelle drôle d'histoire que cette histoire de Babel. Et là encore, les peintres s'en sont donnés à cœur joie pour peindre cette tour qui touche au ciel. Et puis, on a eu aussi parmi les écrivains, les auteurs, les littéraires, de nombreuses interprétations de cette histoire de Babel, toutes aussi imaginatives que les unes que les autres. Mais ce matin, on voudrait humblement nous en tenir au récit de Genèse 11. Essayer de comprendre, de saisir, d'appréhender, de comprendre, de prendre pour soi ce que Dieu veut nous dire à travers cette histoire, cette drôle d'histoire. Et la première question qui se pose est de savoir de quoi cette histoire parle-t-elle. Le dire plus simplement, Babel, c'est l'histoire de quoi, en fait? Est-ce que c'est une histoire de langue? Alors, il est question, effectivement, de langue, et c'est peut-être pour ça qu'Yvonne en a parlé. Et il parle une même langue au début, au verset 1, chapitre 11, verset 1. « À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. » Alors. Et à la fin, il y a une confusion des langues, une multiplication des langues. Alors les linguistes s'arrachent les cheveux en lisant la tour de Babel ou se mordent la langue avec ce récit. D'autant qu'au chapitre précédent, au chapitre 10, on dit déjà qu'il y a plusieurs langues, que chacun parlait la langue de sa région. Et cela paraît tout à fait normal. Dès qu'il y a dispersion, séparation, il y a apparition de langues différentes. Et c'est bien. Et c'est ça qui est voulu par Dieu, qui est pour la dispersion. Et donc, la diversité des langues n'est pas une malédiction en soi, et le récit ne porte pas essentiellement sur la question des langues étrangères ou l'apparition du langage. Mais c'est pourtant ce dont on se souvient de Babel, les langues, l'apparition des langues différentes. Vous savez d'ailleurs qu'à Bruxelles, où ils parlent une langue à eux, le bruxellois, ils ont pris le mot Babel pour faire un verbe, babeler, qui veut dire parler à tort et à travers. On a même à Bruxelles des babelcotes. Et Brigitte et Frédéric, vous savez ce que c'est un cote? C'est un studio pour étudiants. Et ils ont une fille qui est à Bruxelles et elle a dû louer un cote. Et on appelle des babelcotes des studios pour parler de tout et de rien. Et donc on se souvient à Bruxelles de Babel comme une question de langage, babelé. Et malgré cet emprunt dans le récit de Babel, là n'est pas la question. Alors, serait-ce une question de ville, de cité qui serait maudite en tant que telle? Est-ce que ce récit nous parlerait que la ville ou la cité soit en elle-même réprouvée par Dieu? Vous direz, mais bien sûr que non, mais il y a dans certains milieux chrétiens, peut-être les nôtres, plane ou à planer, cette idée que la ville n'était pas un bon endroit pour vivre, sa vie chrétienne. Qu'il y aurait comme une malédiction, encore une fois, qui pèse sur la ville et donc que le bon chrétien ferait mieux de vivre à la campagne, comme le rat des champs. Et on devrait faire peut-être comme les Amish. Et donc éviter tout progrès technologique. Quand mon père, Leendert Leonard, Leendert van der Does, au début des années 50, à l'âge de 20 ans, a demandé à sa mère, ma grand-mère, Oma van der Does, s'il pouvait aller faire un stage en France, parce que mon père aimait beaucoup la France. Il était le fils aîné d'une famille de 5 enfants. Et ma grand-mère, sa mère, lui a répondu « Oui, tu peux aller en France, mais pas à Paris, parce que Paris, c'est Babylone. » Et donc, mon père est parti à Lyon. Une toute petite ville. Un village, presque. Et donc, beaucoup moins babylonesque que Paris, c'est évident. Et ce fut quand même un bon choix, parce qu'à Lyon, mon père a rencontré ma mère. À l'Union chrétienne des jeunes gens. Et donc l'histoire se finit bien, mais malgré ma grand-mère protestante calviniste bien formatée à la hollandaise, le récit de Babel ne nous parle pas en premier lieu de construction de villes, de cités qui seraient des lieux de perdition. Il y en a des villes de perdition. Las Vegas. Mais ce n'est pas le sujet ici. Alors, s'il ne s'agit pas d'une histoire de langue, ni d'une histoire de cité maudite, de quelle histoire s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une histoire d'orgueil. Et ce petit garçon qui manifeste dès son plus jeune âge, comme si l'orgueil était inné presque, il tient un morceau de sable et il a pris la décision de se construire un château de sable tout seul. Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. C'est ça le problème à Babel. Et cet orgueil qu'on pourrait décliner en trois points, avec le premier point qui a trait à l'unité. Donc on l'a dit, le récit de Babel commence par un constat d'unité qui, a priori, n'est pas si négatif que cela. Toute la terre parlait la même langue. Et on a envie de dire que c'est quand même bien pratique de parler la même langue, n'est-ce pas ? Et en tout cas, plus facile pour se comprendre et pour avoir des projets communs. Et ils en ont des projets. Bâtissons, construisons. Oui, il y a une certaine unité entre les hommes, et il est même possible qu'à l'époque, cette unité soit recherchée, car le souvenir du déluge est encore présent. Ils ne veulent pas être dispersés aux quatre coins de la terre. Il s'agit de rester groupir, comme le disait le sergent-chef dans la 7e compagnie. Il n'y a rien de très négatif là-dedans, sauf que Dieu est pour la dispersion et la dissémination. Et le peuplement de la terre, c'est le mandat pour les hommes. Dès le départ, souvenez-vous, Genèse 1 et 2, multipliez-vous et dispersez-vous. Mais les hommes, par peur, par sentiment d'insécurité peut-être, mais aussi et surtout par fierté, choisissent la sécurité du groupe et quelque part, l'unité qu'ils vivent à Babel est une unité basée sur la désobéissance à Dieu. Au lieu d'être une unité pour Dieu dans son alliance, c'est une unité qui s'élève contre Dieu, dans la désobéissance. Et cette unité à Babel nous fait penser que toute unité n'est pas bonne à prendre. L'unité, aujourd'hui, dans nos vies, dans notre société, n'est pas une fin en soi, mais c'est le but qu'elle se fixe qui pourra la déterminer moralement. S'unir, pourquoi faire ? Dans quel but ? Et c'est la réponse à cette question qui nous permettra de savoir si l'unité en vaut la peine, si elle est bonne ou si elle est au contraire désastreuse. Et à Babel, le but de l'unité est manifestement de montrer sa force et son indépendance vis-à-vis de Dieu. Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Et il y a tout dans ce projet. Se faire un nom, une idéologie, se faire un nom, une mystique, toucher au ciel, et une technologie, bâtir une ville. Il y a tout dans ce projet. Mais il y a un grand absent. et c'est Dieu. On veut faire quelque chose sans lui, et même lui prouver son indépendance en voulant se faire un nom, alors que c'est à Dieu de nous donner un nom. Et c'est le deuxième point saillant de cet orgueil après cette unité contre Dieu. Il y a cette volonté de se faire un nom, traduit par la semeur, alors notre nom deviendra célèbre. Mais c'est, en hébreu, c'est se faire un nom soi-même. Et il faut se rappeler que dans le Proche-Orient ancien, le suzerain, le roi, donne un nom à ses vassaux, ou même change le nom de son vassal, si c'est un nouveau vassal. Recevoir le nom de la part du suzerain était signe de soumission pour le vassal. Ici, à Babel, il n'y a pas de suzerain qui donne le nom. Ils veulent se faire un nom tout seul, qui les pose et qui les porte. Il y a un projet clair d'auto-affirmation. Comme le disait un joueur de foot quand je jouais en 5e division amateur, c'est dire le niveau. Il était dans l'équipe adverse et il venait de recevoir un carton jaune. Et il m'a dit « On s'en fout, c'est nous qu'on est les meilleurs ». Lui aussi, il avait des problèmes de langue. Mais il disait tellement bien le problème de l'homme face à Dieu. « Je m'en fiche de toi. C'est moi qui suis le meilleur ». Et pour revenir à la tour de Babel, on remarque l'ironie au niveau de cette recherche de nom. Ils vont recevoir un nom suite à la construction, mais pas du tout celui qu'ils auraient choisi. On va se souvenir d'eux, en effet, par le nom de Babel, qui veut dire confusion et qui évoquera à jamais cette confusion, ce babillage confus, comme je l'ai lu. Je lisais aussi cette citation magnifique. Babylone était censé être la porte des dieux. Le verdict de ce récit est sans appel. Baragouin, charabia, galimatia. Bref, la confusion. Et je me demandais s'il n'y avait pas une leçon pour nous. À savoir que vouloir se faire un nom tout seul, c'est prendre le risque d'en recevoir un qu'on n'a pas voulu. Et de se le prendre en pleine figure. Il y a comme cela, je vais dire presque des lois naturelles ou créationnelles, où il y a des retours de manivelle dans la vie. C'est ce que Jésus, me semble-t-il, disait dans son style toujours lapidaire, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Vouloir se faire un nom tout seul, c'est risquer de s'en prendre un qu'on n'aura pas choisi. Et puis, il y a ce troisième aspect dans cette tour de Babel qui veut cette volonté de toucher au ciel. Et c'est frappant de voir cette délibération des hommes de la plaine de Shinéar, ce désir d'aller plus haut, de s'élever, de vouloir être comme Adam et Ève, être des dieux à la place des dieux, encore une fois. L'histoire recommence ou l'histoire bégaye. Et ce qui est aussi frappant, c'est qu'on a retrouvé des tours, justement, dans l'Empire babylonien, dans les fouilles archéologiques. Des tours qui portaient le doux nom de ziggourat, en babylonien. Des tours à étages qui étaient faites de briques et de bitume, comme il est dit au verset 1. Non pas en pierre, mais en briques et en bitume. Une référence au système babylonien, au ziggourat. Ces tours pouvaient s'élever à 91 mètres de haut, et c'est quand même pas mal. Et ces tours étaient des monuments religieux. Et pour les Babyloniens, elles faisaient figure de montagnes cosmiques. Alors voilà, le fondement du ciel et de la terre. Une tour qui prétend quelque part capturer Dieu, mettre la main sur Dieu, envahir le ciel. Et c'est un peu la définition de tout système totalitaire. Qui veut tout englober, qui prétend remplacer Dieu et faire figure à sa place d'absolu. C'est toutes nos absolutisations qui sont en jeu ici, ou en image dans la tour de Babel. Et donc on comprend mieux pourquoi cette tour, cette unité autour de la tour, ne dit rien qui vaille. Et comme dirait Jean-Claude Van Damme, le grand philosophe belge, ça manque de spirit. Et il y a un peu d'ironie aussi dans le récit, cette tour qui prétend toucher les cieux est en fait minuscule. Dieu descend. Il est dit que Dieu descend juste pour la voir. C'est un anthropomorphisme. Dieu a une bonne vue. Mais c'est pour montrer le côté futile et pathétique de l'entreprise. Et en parlant de futilité et d'entreprise pathétique, on pourrait peut-être se poser ce matin une question, la question des ziggourats dans notre vie. Oui, chers amis, posons-nous la question. Question ziggourat. Où en est-on aujourd'hui ? En pensant à ce mot ziggourat, je me disais que ça aurait pu faire partie du vocabulaire du capitaine Haddock et de ses insultes. À côté de... Ah, il est où ? Voilà. À côté de bachibouzou ou d'ectoplasme, ziggourat aurait pu avoir sa place. 1 000 000 000 de 1 000 sabords de ziggourat. Mais Hergé, le père de Tintin, n'était pas versé dans la culture babylonienne. Mais on peut penser à nos ziggourats à nous, de notre société, de notre culture, qui s'élève vers les ciels avec des bâtiments qu'on appelle gratte-ciel, on ne dit plus trop maintenant, mais c'est intéressant quand même. Je me souviens qu'à Bruxelles, la plus haute tour était la tour des finances à l'époque, celle que vous voyez à gauche. L'argent, l'économie comme maîtresse du monde, ah oui. L'argent comme roi, l'argent comme idole qui promet la liberté et le bonheur, mais qui nous enferme dans ces tours d'ivoire et nous isole d'abord les uns des autres et qui nous isole de la vie, la vraie, la vie avec, en relation avec le Dieu de l'Alliance. Oui, on pourrait penser à toutes les grandes idoles de notre temps, mais on peut aussi également penser à nos petites ziggourats à nous, à toutes nos petites entreprises personnelles où Dieu est exclu, ou si pas exclu, mis en marge, mis en périphérie. Toutes ces entreprises qui commencent par moi-je, et qui participent à ce que l'apôtre Jean appelle dans 2 Jean 2 au verset 16, l'orgueil de la vie, à côté de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et je n'ai pas envie de donner des exemples, mais j'en ai pour moi des exemples de ziggourat dans ma vie. Et chacun pourra évaluer s'il n'y a pas quelques ziggourats dans sa vie, dans son arrière-cour, dans son jardin secret, comme des topinières qui poussent et qui montent. Des ziggourats de jardin, des constructions qui échappent à Dieu, où Dieu est singulièrement absent, qui sont comme des forteresses de résistance à Dieu dans nos vies, des domaines où on réclame l'exclusivité, l'indépendance absolue et peut-être surtout le contrôle. Et parfois, ces constructions sont motivées par la peur, comme à Babel, par un sentiment d'insécurité. Et elles ressemblent, ces ziggourats, à des bunkers où on veut se protéger, protéger ses arrières, mais qui manquent singulièrement de confiance en Dieu, en foi, en celui qui est le rocher des siècles, comme nous dit l'Ancien Testament. Mais il y a une bonne nouvelle, chers amis, c'est que nos ziggourats, toutes les ziggourats sont sous le coup d'un jugement, elles ne vont pas durer, ce sont des constructions vouées à la destruction, ou du moins à l'arrêt, et on connaît l'avenir de la Grande Babylone. Dans l'Apocalypse, mais à Babel, Dieu va introduire un grain de sable dans la construction pour que la belle machine s'enraye et que la construction ne se fasse pas. Dieu confond leur langage et c'est la confusion la plus totale. Et donc le travail s'arrête. Et la construction de la tour qui voulait toucher au ciel se termine là, cessation d'activité. Et je ne chercherai pas à être trop positif, mais il me semble qu'il faut voir dans cette confusion une bénédiction de la part de Dieu. Dieu, dans son amour et sa grâce, veut empêcher que ces gens ne se cassent la figure, au propre comme au figuré, dans une entreprise sans lui. Le grain de sable dans cette machine à se faire un nom est une mesure de grâce. Tant mieux que Babel n'ait pas marché ou n'a pas été construite. Et je crois que l'on peut dire aussi cela de notre petite ziggourate à nous, des ziggourates vouées à l'échec et à l'impasse parce que mal construites, parce qu'elles manquent de spirit. Et elles sont aussi sous le coup d'un jugement, et c'est tant mieux, Seigneur. Avant que je ne sois complètement endurci comme le mortier de ma construction, arrête mes constructions à la noix. Viens cesser cette affaire. Futile, ou ces affaires, futiles et pathétiques, mets ton grain de sel dans mes constructions, ou de sable. Fais-le, Seigneur. Oui, il faut voir certaines destructions comme des bénédictions. Une porte qui se ferme, un projet qui tombe à l'eau, une relation qui prend fin. Merci, Seigneur. Et on remarque dans le récit que la tour de Babel n'est pas détruite, hein. Elle est juste arrêtée. Et elle reste là un petit peu, non finie, comme le symbole de ces entreprises inachevées et qui nous rappelle alors que les choses qui n'ont pas marché dans notre vie, des projets qui n'ont pas abouti dans notre vie, peuvent être considérés finalement comme une bénédiction. Romains 12. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son bienveillant projet et qui répondent à cet appel. Nous allons conclure, mais avant cela, vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons lu et mimé l'histoire de la Pentecôte, un peu en avance sur le calendrier quand même. Eh bien, tout simplement parce que la Pentecôte est considérée comme un anti-Babel, comme la fin de Babel. À la Pentecôte, on reprend les choses, mais cette fois, on va dans le bon sens. Il y a tous les gens qui appartiennent à la diaspora juive, à la dispersion juive, disséminée dans tout l'Empire, et qui reviennent pour la fête de la Pâque et de la Pentecôte, et qui reviennent à Jérusalem. On a toutes sortes de juifs, là. On a même des craignants Dieu, donc des presque pas encore tout à fait juifs, mais aussi on a des Iraniens, des Irakiens, tous juifs, hein, des Grecs, des Italiens, des Turcs, des Égyptiens, des gens avec leur langue et leur culture et leur façon de passer, des gens que tout sépare. Mais ils se rassemblent autour de 12 hommes, 12 gars de Galilée, qui n'ont pas fait de grandes études, pas d'études de langue en tout cas, et qui pourtant se mettent à parler des langues étrangères non apprises. Et le miracle n'est pas vraiment là. Le miracle de l'Esprit de Dieu, c'est que des hommes que tout séparait, de la diaspora juive, reçoivent le même message de la part de Dieu, tout ce qu'il a accompli, la croix. Ils reçoivent la parole dans leur langue personnelle et ils s'y retrouvent et ils sont unis dans l'écoute et la réception de la parole de Dieu et de l'Évangile, cela malgré leur diversité de langue et de culture, alors qu'à Babel, c'est une unité motivée par la peur et l'insécurité et qui avait comme projet de se faire un nom. Ici à Pentecôte, c'est une unité de fête autour du Christ et de son esprit, l'esprit de Christ, une unité dans la diversité, c'est l'unité de Dieu, c'est l'unité de l'Esprit. Et c'est dans cet esprit-là de Pentecôte, et non pas dans l'esprit de Babel, que va se construire cette nouvelle chose qui apparaît à la Pentecôte et qui est l'Église, qui est plus qu'une chose, qui est un corps. Et cette communauté va vivre sur le principe de Pentecôte, l'unité dans la diversité et non pas celui de Babel, l'université, l'uniformité et la confusion. À la Pentecôte, Babel est renversé. Alléluia. Et on veut vivre, nous aussi, chrétiens du XXIe siècle, dans cet esprit-là. Et on veut vivre nos constructions dans cet esprit-là. N'est-ce pas? Dans l'unité de l'esprit de Christ, une unité non pas contre, mais pour lui, pour le glorifier dans nos vies, pour lui rendre un culte qui lui soit agréable, pour m'offrir chacun notre corps, pour un culte qui sera raisonnable. Romains 12, encore. Tout cela pour que nos constructions ne tournent pas à la confusion. Nous voulons recevoir à nouveau le Spirit, l'Esprit. Non pas dans une volonté ascensionnelle pour toucher aux cieux, mais dans l'entente d'un mouvement inverse, que l'Esprit descende sur nous et vienne habiter en nous. pour que l'Esprit de Christ descende sur nous et entre dans nos cœurs et en fasse sa demeure. Et je termine avec ce verset de l'Ancien Testament qui convient bien pour nos constructions, qu'elles soient communautaires ou personnelles. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent, construisent en vain. Oui, Seigneur, détruis toutes nos ziggourats et viens faire ta demeure dans nos vies. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole. Amen.